Salut à tous, bienvenue sur lematin.ch pour un nouvel épisode des 3 quarts d'heure de cette équipe. Ce week-end à Saint-Gall, si c'était LOL ma fèche, c'était surtout la foire à la saucisse pour l'équipe de Suisse. Alors bien sûr, on va même parler que de ça. Aujourd'hui avec moi, j'ai Valentin Schnork et Daniel Visentini du Sport Center qui étaient sur place, mais aussi Johan Tachet de Blue Sport qui est un peu colère. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Qui changer? Quoi changer? Pourquoi changer? Quand changer? Est-ce qu'il faut changer? On en parle tout de suite dans les 3 quarts d'heure de cette équipe. Bonne écoute! Quoi de mieux que passer un lundi de gueule de bois avec des collègues? Salut Johan!
Salut!
Salut Valentin!
Salut Robin, salut à tous!
Salut Daniel!
Salut cette équipe!
Bon, Daniel, je commence avec toi. On pense souvent qu'on a touché le fond avec l'équipe de Suisse depuis quelques matchs, mais hier soir, c'était une vraie première.
Ah non, bah non, hier soir, il faut quand même se rendre compte d'une chose. À 6 minutes de la fin, la Suisse est menée 3-0 par la Biélorussie. Wow. Alors, à 6 minutes, 84. 3-1, pardon. Oui, Shaqiri avait marqué. Autant pour moi, évidemment. Mais donc, 3-1 à 6 minutes de la fin, c'est de la science-fiction, quand même. J'ai rien contre les Biélorusses. C'est des admirables joueurs avec beaucoup de qualités, sans doute. Mais enfin, je veux dire, quand on s'appelle Akanji, Cher, Rodriguez, Chaka, c'est inadmissible ce qui s'est passé. C'est de la science-fiction et ça invite à se poser des questions sur le pourquoi de ça s'est passé. Mais ça, je pense qu'on va y venir.
Valentin, est-ce que tu voyais arriver une faillite pareille?
Oui, je pense que ça fait quand même déjà depuis le mois de septembre qu'on comprend qu'il y a beaucoup de choses qui ne vont pas et puis que disons qu'une partie de l'équipe n'a pas forcément envie de faire beaucoup plus que ce qu'elle pourrait faire en ce moment. En tout cas, c'est le sentiment, c'est l'impression qui ressort de ce qu'on voit sur le terrain. Les deux matchs du mois dernier contre le Kosovo et contre Andorre avaient quand même souligné, des prestations très problématiques et qui n'étaient pas du tout au niveau de ce qu'on pouvait attendre d'équipe de Suisse. Et il n'y avait pas de raison que ça change d'un mois à l'autre. Alors pendant toute la semaine, on a servi la théorie qu'il y a des matchs qui sont plus compliqués parce que vous savez, en septembre, tout est plus compliqué. Des fois, on a des mauvais jours, etc. Mais il n'y avait aucune raison que ça aille mieux maintenant parce que rien, ou presque rien, n'a changé en équipe de Suisse autour de l'équipe de Suisse depuis le mois dernier.
Johan, comment tu as vécu ce match? Alors, il y a l'égalisation quand ça commence à bouger un peu à la fin, mais un naufrage rarement vu avec même des censés cadres qui ne répondent pas.
Mais j'ai été frustré, et je l'étais déjà après le match nul contre la Roumanie. Tu peux dire, ça passe parce que, 2-2, ça arrive même si tu gagnes 2-0. Une fois, c'est bon. Contre le Kosovo, t'es pas capable de tenir deux fois le score. Et là, rebelote. Et tu te fais bouger défensivement par la Biélorussie dès du moment qu'il passe le milieu de terrain. Derrière, tu l'as évoqué, Valentin, t'as des types, ils jouent en Ligue des Champions, ils sont titulaires dans leur club en Première Ligue, et ils ne sont pas capables de courir derrière un joueur du Baté Borisov. Je suis désolé, mais il y a quand même un problème de fond dans cette équipe de Suisse.
Valentin, on dit qu'on l'a vu venir, et on en a parlé déjà lundi passé. Quel est le message envoyé par l'encadrement de la SF quand on voit Yann Sommer aller se balader le mardi au bord d'un lac, alors qu'on était censé travailler plus et plus intensivement quand même après les remarques de Granit Xhaka?
Le message, il est désastreux parce qu'en plus, et c'est quand même ce que j'ai ressenti moi en suivant cette semaine l'équipe de Suisse, donc du coup pas à partir de lundi, mais à partir de mercredi, c'est que, je vais le dire crûment, mais on se fout un petit peu de notre gueule. Il faut savoir que mercredi, donc pour le retour des internationaux après 2 jours de repos, on nous a expliqué, on a essayé de nous avancer des raisons pour lesquelles il n'y a pas eu ces 2 jours de préparation avant, ces 2 jours d'entraînement avant. Pierre-Louis Dutamy, parce que c'est de lui qu'il s'agit et c'est lui l'interlocuteur principal quand il s'agit de parler de tout ce qui traite à l'équipe de Suisse, qui n'est pas directement lié au terrain, mais en tout cas ou à la façon dont Yakin a fait jouer son équipe, mais tout ce qu'il y a autour de l'équipe de Suisse, c'est lui qui parle, c'est lui l'interlocuteur des médias et donc, par extension, du public. Pierre-Louis Tamy nous a d'abord expliqué que l'équipe de Suisse ne s'est pas entraînée pendant 2 jours parce qu'il était impossible de faire un entraînement collectif pendant ces 2 jours, parce que vous comprenez, il y a beaucoup de joueurs qui ont joué dimanche et une bonne partie en soirée. Si on vérifie un petit peu après, on se rend compte qu'il y a que sur la sélection de base, il n'y a que 6 joueurs qui sont concernés, dont un gardien, et aucun d'entre eux n'a joué le soir. Sauf si on considère que 18h, que finir un match à 18h, c'est le soir pour un joueur de l'équipe de Suisse. Mais bref, voilà, une question de récupération.
Pour les Bernois.
Voilà, une question de récupération, etc. Il y a plein de choses qui vont là-dedans. Donc c'était faux. C'était en tout cas à moitié vrai. C'est beaucoup de mauvaise foi. Donc ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, on a l'ASF, Pierre-Louis Tamy en tête, qui protège clairement son staff technique, Murat Yakin en tête, en justifiant tout ce qui devient à peine justifiable. Et il y a plein d'autres thèmes qu'on pourrait mettre dans la balance comme ça. Moi, j'ai évoqué pendant la semaine, c'est la question du renouvellement des jeunes, de l'équipe qui vieillit. Il y a plein de choses sur lesquelles, aujourd'hui, ça devient difficile, c'est difficilement entendable. Les explications avancées par l'ASF deviennent difficilement entendables. Donc voilà, c'est tout un panier de choses qu'on met dans le saladier et qui font plus que frustrer, qui commencent à fâcher un petit peu.
Oui.
Vas-y, Daniel.
Ça fâche parce que franchement, pour reprendre ce thème des 3 jours de congé, là, dimanche, lundi, mardi, puis on recommence mercredi avec un entraînement public, il faut quand même savoir que sur ce thème-là, Yakin, le mois précédent, a été pointé du doigt frontalement par Granit Xhaka, qui disait les entraînements de Yakin, en gros, je dis en substance ce qu'il a dit, c'est n'importe quoi, il n'y a aucune intensité, on prépare rien, du coup, on joue comme on s'entraîne, autrement dit, merdiquement, et c'est ce qui donne le 2-2 au Kosovo, où la Chianli contre un Andorre pendant une mi-temps qui joue avec un mec de 43 ans, défenseur central qui est promu centre-avant, il s'appelle Lima, donc c'est une vaste plaisanterie. Et qu'est-ce qui se passe le mois d'après, alors qu'il a l'occasion de travailler une semaine comme en club, Murat Yakin ne fait pas des pieds et des mains pour utiliser ces 2 ou 3 jours supplémentaires de travail collectif, alors que l'excuse, c'était justement de dire « Oh, on n'a pas le temps de travailler avec l'équipe de Suisse, c'est pour ça que des fois, les entraînements, il faut les gérer ». C'est du grand n'importe quoi, tout simplement. Il n'y a rien d'autre à dire. Et Murat Yakin a évidemment une grosse part de responsabilité là-dedans. C'est lui qui doit donner le tempo pour cette équipe. C'est lui qui doit dire « je veux travailler 3 jours de plus avec cette équipe puisque j'en ai l'occasion ». C'est précieux. Cette préciosité-là, il ne l'a pas prise.
Mais après, c'est un problème qui revient récurremment avec Murat Yakin. C'était déjà le cas dans plusieurs de ses anciens clubs. C'est pas un féru de travail. Et voilà, maintenant, on se rend vraiment compte qu'il va faire le strict minimum parce qu'il se contente, il se complaît dans ce rôle de coach qui, peut-être tactiquement, il arrive à gérer 2-3 trucs, mais derrière, le travail, c'est pas pour lui. Normalement. Et encore, c'est ce que je te dis, il a réussi un coup d'éclat contre l'Italie en qualification pour le Qatar et ça s'arrête là.
Ouais, c'est après, surtout l'Italie qui a réussi le coup d'éclat, le rapide de penalty de suite. Hein.
Mais non, on reparlera, je pense, après du fond de jeu qui ressemble au néant. Mais non, mais Murat Yakin, on pensait au départ que ça allait être la bonne personne parce qu'il n'allait pas avoir besoin de travailler tous les jours. Mais là, tu as ton groupe, tu as 6 jours, entre 6 et 8 jours selon la durée de la pause internationale, tu n'es pas foutu de t'entraîner plus que faire plus que 4 séances, c'est du tâche de gueule.
C'est quoi, c'est de l'arrogance alors, Daniel? Parce qu'on dit, oui, alors l'équipe de Suisse est la formation qui a le plus la balle de toutes ces qualifications, hein, mais ça veut dire aussi qu'il n'y a absolument rien en face. Alors quand on entend que Yakin ne prend même pas le temps de faire travailler défensivement son équipe, il y a une part d'arrogance et de suffisance.
Mais bien évidemment, mais en fait, Yakin, il faut vraiment se poser la question, est-ce que ce n'est pas une erreur de casting, Yakin, à la tête de l'équipe de Suisse? On en est là maintenant, parce que quand on voit ce qui se passe, il n'a pas l'adhésion de ses leaders. Quand Granit Xhaka fustige ses entraînements mauvais, il ne faut pas croire que c'est Granit Xhaka tout seul qui parle. C'est la voix de tous les leaders de l'équipe de Suisse, c'est une évidence. Et quand il dit ça, ben, il jette un pavé dans la mare, et en fait, il alerte l'ASF. Il faudrait peut-être que l'ASF, elle aussi, se pose des questions et se remette en question aussi sur ses propres choix, le choix de Yakin. Quand Yakin prépare son équipe, il la prépare systématiquement différemment. Il change d'avis ou de personne au dernier moment. Je ne parle même pas du 6-1 grotesque contre le Portugal avec cette défense à 3 inique qui a été annoncée aux joueurs 4 heures avant le coup d'envoi.
Oui, mais ils étaient malades.
Ben ouais, mais ils étaient malades, pas assez prêts physiquement. On a décidé que c'était de la faute d'une mauvaise préparation physique et on a renvoyé le préparateur physique pour amener deux Espagnols. C'est une blague, encore une fois. Donc, l'équipe de Suisse actuellement, et ça se voit sur le terrain, ne sait pas comment elle doit se comporter, ni défensivement à la perte de balles, ni offensivement face à des blocs bas. Mais on était quand même prévenu que la Suisse allait avoir le ballon en permanence dans ce groupe si faible. Eh ben, contre ça, on n'a rien préparé, on ne sait pas ce qui se passe, on péclote pendant 60 minutes pour contre Andorre, mais s'il vous plaît, quoi, ou contre des équipes comme la Biélorussie, avant que tout d'un coup, sur un coup de patte de quelqu'un, comme Shaqiri, on ouvre le score et qu'on s'oublie derrière. Il n'y a plus aucune certitude. Le contraste entre l'équipe de Suisse qui sort du mondial, de l'Euro, pardon, 2021, en quart de finale, en poussant l'Espagne au tir au but, après avoir éliminé la France championne du monde, et la manière dont elle jouait face à cette Suisse d'aujourd'hui, qui ne sait même plus comment s'y prendre face à la Biélorussie ou Andorre, bah, il est saisissant. C'est un décrescendo terrible au niveau des performances. Et ça, c'est l'œuvre de Yakin, oui.
Et encore une fois, il a dit, ils ont travaillé pendant 4 jours les schémas offensifs. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont entraîné le power play à se passer le ballon à 20 mètres. Il n'y a aucun schéma tactique, Valentin. Je pense qu'il sera mieux placé pour parler de ça. Mais pourquoi on s'entête à vouloir juste se passer ce ballon sans idée, sans créativité? Ça manque également d'un type qui est capable de transpercer les lignes comme peut l'être un Fabian Rieder qu'on laisse avec les moins de 21. Mais là, il y a vraiment un problème tactiquement, c'est catastrophique.
Alors Valentin, question de fond, qu'est-ce qu'un sélectionneur a comme marge de manœuvre et comme possibilité de créer quelque chose, même avec 2 jours de plus d'entraînement, hein, mais est-ce qu'il y a vraiment, on a vu que Vladimir Petkovic arrivait à le faire, hein, mais est-ce qu'il y a vraiment possibilité de mettre en place quelque chose pour les rendez-vous internationaux, quelque chose d'intéressant tactiquement?
Oui, je pense qu'il y a possibilité qu'avec 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, tu peux présenter quelque chose. Après, avec plus, tu vas pouvoir le soigner, le développer, l'améliorer, le jauger face à des meilleures équipes, etc. Moi, je pense pas qu'il ait rien fait, qu'il y a rien qui soit passé pendant 4 jours avec l'équipe de Suisse. Faut pas être de raconter n'importe quoi non plus. Je pense qu'il a en effet travaillé offensivement. Je pense qu'on a vu la manière dont la Suisse était organisée pour affronter ce match. Il y avait des choses qui étaient un petit peu nouvelles, espèce de 2-3-5 en possession du ballon, enfin, avec les Freuler et Saut dans les demi-espaces, avec les latéraux qui sont un petit peu resserrés. Voilà, enfin, c'est rien d'extraordinaire. C'est quelque chose qui est habituel dans le football moderne actuellement, surtout quand tu as la possession du ballon. Par contre, tu peux pas décider le mercredi, jeudi ou le vendredi de faire ça et puis partir du principe que le dimanche tout va se passer de manière parfaite. Il faut du temps, il faut pouvoir l'éprouver, il faut pouvoir le corriger derrière, il faut pouvoir le travailler sur la durée. Je suis désolé, l'équipe de Suisse, quand elle a attaqué face à des blocs bas sur les 6 premiers matchs avant celui-là contre la Biélorussie dans ses qualifications, elle n'a pas tout le temps joué comme ça. Elle a tout le temps changé, elle a tout le temps eu une approche différente. On était à 3 contre Andorre, contre le Kosovo, c'était encore différent. Enfin, il y avait un moment Zakaria dans la défense, maintenant c'est Chaka qui est dans la défense. Il n'y a pas de continuité, il n'y a pas de ligne. Et c'est ça que je reproche principalement à Yakin sur ces dernières semaines, c'est que ça change tout le temps. Dans le fond, ce qu'il a voulu faire hier, ça ne me paraît pas totalement inique. Mais ça ne peut pas être sorti du chapeau un jour contre la Biélorussie et puis considérer que tes joueurs ils vont faire ça de manière automatique et puis que tout va bien se passer. Et surtout, encore moins, si les joueurs n'ont pas forcément envie d'en faire beaucoup plus que ce qu'ils sont capables de faire.
Daniel, il y a cette approche tactique, hein, mais il y a aussi le choix des hommes qui a presque fait plus couler d'encre. À quel moment, excuse-moi, mais ça m'énerve, mais à quel moment Renato Steffen, c'est encore un joueur international?
C'est une excellente question. Enfin, franchement, on a tous été surpris, et pas, pour pas dire surpris, c'est plus que ça. Ça veut dire en fait que le sélectionneur de l'équipe de Suisse, quand il a dans sa balance Renato Steffen d'un côté, puis que de l'autre, il a Amdouni ou Ndoye, il se dit tout à fait sérieusement que face à un bloc bas qui joue en 5-4-1, Steffen, avec toutes ses qualités et tout son enthousiasme, bien sûr, va être meilleur pour déstabiliser la défense que Ndoye ou que Amdouni. c'est déjà fabuleux de penser ça. Et derrière le mot fabuleux, il y a beaucoup d'ironie parce qu'en fait, c'est terriblement inquiétant. Les sélectionneurs de l'équipe de Suisse, d'une part, oublient complètement de préparer l'avenir parce qu'il faut qu'ils mettent en place des jeunes comme Amdouni, comme Endoy. Ils pensent aussi qu'il faut mettre Djibril Sow en 8 sans jamais penser une seconde qu'un joueur comme Rieder, qui joue contre le PSG et très bien d'ailleurs avec Rennes, puisse être une solution intéressante à ce poste-là, alors que justement, il le laisse végéter avec les M21. C'est incompréhensible. Et d'ailleurs, on voit ce qui se passe quand Endoy et Zekiri et ainsi que Amdouni rentrent. Il y a d'autres solutions qui s'offrent à l'équipe de Suisse. Il y a plus de percussions, il y a plus d'occasions. Les choix de Yakin, la préparation, la vision pour l'avenir n'existent pas parce que ça change à chaque fois, en fait. Et la vérité d'hier n'est jamais celle du lendemain. C'est Murat Yakin dans toute sa splendeur. Je suis un génie tactique, donc j'organise les choses comme je le veux. Et puis les joueurs doivent être suffisamment intelligents pour s'adapter à mes pensées lumineuses. Mais on n'en est pas là, c'est pas vrai. Le football, c'est du travail. On l'a vu pendant 7 ans avec Petkovic. Et ben, on voit tout ce qui est balayé maintenant par ces lubies, celles de Yakin.
On passe à la deuxième partie. Johan, je commence avec toi. Est-ce qu'en fait, on se trouve pas un peu trop beau l'équipe de Suisse? Parce que, OK, on a une colonne vertébrale pas dégueu. Mais à gauche, on a un vétéran. À droite, on ne sait pas qui mettre. Sur les ailes, c'est soit un gars qui joue à Lugano, qui a mis un hat-trick sur un match à huis clos contre la Biélorussie. À droite, on a un gars qui est peut-être moins bon que Haile Selassie au Chicago Fire. Est-ce qu'en Suisse, on ne se voit pas un peu trop beau? Et surtout, on a bénéficié de tirages assez favorables dernièrement dans les groupes de qualif. Est-ce qu'on est vraiment une puissance du football, quoi?
Alors, puissance du football, on fait pas encore partie du top 5 européen, ça c'est clair, mais on est quand même un pays qui compte. On aligne les qualifications dans les grands rendez-vous depuis 2004, le seul qu'on a loupé c'est l'Euro 2012. Il y a eu ce que Daniel a évoqué avant, tout ce que Petkovic a construit avec cette équipe. Il y a le quart de finale de l'Euro qui en est l'accomplissement. Mais derrière, tu fais encore des résultats probants en Ligue des Nations contre des équipes quand même qui sont de renom, que ce soit l'Espagne, il y a eu l'Allemagne, le Portugal. Donc oui, on sait jouer au football. Après, on n'a pas le même réservoir qu'un pays comme le Portugal, comme la France ou l'Angleterre. Mais on peut pas dire qu'on soit trop beau. Si on est là en train de discuter, en train de se dire, mais la Suisse peine dans un groupe comme ça, c'est normal parce qu'on est favori et on doit le montrer. Et on a les qualités pour vraiment sortir de ce groupe normalement avec une grande facilité. Et on l'a prouvé par le passé.
Sortir de ce groupe, oui, ça c'est sûr.
Oui.
Évidemment, sortir de ce groupe, oui. Ce qu'il n'y a pas en Suisse, et c'est un problème qui date quand même depuis très longtemps et on peut remonter très loin, il n'y a pas de très grande star mondiale. Est-ce que c'est grave? Est-ce que ça peut être une limite à un moment pour passer, je ne sais pas, les quarts de finale d'une grande compétition, arriver en demi? C'est clair que si on se compare à la Croatie, si on avait un Modric, on serait peut-être un petit peu mieux. Pourquoi pas? Mais on a des très bons joueurs, on a des bons, très bons joueurs de très bons clubs européens. On n'a pas besoin de les citer, hein, les Xhaka, Kanji, etc. Enfin, il y en a quand même pas mal qui sont. Ont une belle réputation et puis une belle image en Europe. Mais si la Suisse a été forte ces dernières années, et évidemment principalement sous Vladimir Petkovic, c'est parce que collectivement elle était forte. Et si tu penses qu'en rasant tout le collectif, ou en repartant de zéro, en voulant amener ta propre idée, alors, un, il faut que ton idée elle soit claire et puis qu'elle soit développée sur le temps long, et deux, il faut vraiment être très convaincu que tes joueurs vont être prêts pour l'appliquer, vont être disposés à l'appliquer. C'est bien là le problème, et c'est bien tout le problème de Murat Yakin depuis qu'il est en équipe de Suisse. Son effectif n'a pas changé, donc on peut se permettre la comparaison. Alors oui, certains joueurs sont un petit peu plus vieillissants, mais on peut se permettre la comparaison avec ce qu'il y avait avec Petkovic. Et pourtant, on est à des allées-lumière de ce qu'il était capable de réaliser, de mettre en place, de la complexité qu'il était capable d'amener au jeu de l'équipe de Suisse. C'était pas toujours parfait, mais au moins il y avait une, il y avait une,
une réflexion d'ensemble, une réflexion collective qui permettait à la Suisse justement d'être à la lisière, en tout cas du top 10 mondial et peut-être même un peu plus haut au niveau européen. Donc,
ouais, la Suisse, il y a Yakin à la tête de l'équipe de Suisse n'a jamais eu l'adhésion quant à ses idées de ses joueurs. Ça, c'est la réalité. Et cette chose-là, pardon ?
Des cadres.
Cadres, mais de la majorité de tous les joueurs. Il a pas eu l'adhésion de ses joueurs quant à ses idées changeantes, défensives, peu importe. Et ce qui est arrivé, c'est que à force, il y a un climat de défiance maintenant qui existe de la part des cadres et des joueurs, pratiquement tous les joueurs de l'équipe de Suisse, envers Murat Yakin et ses idées. Si l'équipe de Suisse péclote contre Andorre ou cravache dans les dernières minutes pour égaliser face à la Biélorussie, c'est parce qu'ils n'ont peut-être pas envie, avant ça, de mettre le maximum de cœur, comme ils le faisaient avec Petkovic, par exemple, pour servir les intérêts de leur entraîneur, parce qu'ils sont convaincus de ses idées. Là, quand tu n'es pas convaincu des idées de ton sélectionneur, fatalement, tu es moins enclin à épouser chacune de ses axes, de ses thèmes, et à fournir les efforts pour lui donner raison, puisque tu penses qu'il a tort.
Valentin, on est d'accord, Murat Yakin ne risque absolument rien. C'est impossible de changer maintenant.
Ça me paraît totalement improbable. Après, est-ce que c'est la bonne ligne à suivre ? Je pense que ça se discute. Mais évidemment que l'SF va quand même protéger son poulain, j'allais dire, mais en tout cas l'homme qu'elle a choisi après Petkovic, pour succéder à Petkovic, le plus longtemps possible. Le fait est que Murat Yakin est dans un contrat jusqu'à la fin de l'année, jusqu'à la fin des qualifications. En cas de qualification pour l'Euro, il est prolongé automatiquement jusqu'à la fin de l'Euro. Ils vont peut-être pas prendre le risque de le virer maintenant, alors qu'il y a dans 24 jours, il y a un match contre Israël. On ne sait pas trop où il va se passer et s'il va pouvoir se passer, mais quand même, qui sera quand même très important. En tout cas, il faut le préparer comme tel. Je peux comprendre que la SF puisse être un petit peu réticente à renverser la table maintenant. Mais pour moi, elle doit agir, elle doit prendre des décisions qu'on peut déterminer, qu'on peut évoquer. Peut-être pas forcément virer Murat Yakin dès maintenant, mais en tout cas agir et puis montrer qu'elle se remet clairement, mais très clairement en question et qu'elle interroge clairement le travail de son sélectionneur.
Daniel, on sait que la SF, la remise en question et les changements brutaux, c'est pas dans les habitudes de la maison. On l'a vu avec quand il y avait quelques problèmes en équipe de Suisse auparavant. C'est impossible que ça bouge, on est d'accord.
Je vais nuancer. Impossible que ça bouge, je ne sais pas. Il y a eu des rumeurs, sans doute un peu farfelues, qui prêtaient un entretien entre Pierre-Luigi Tamil, directeur des équipes nationales, et Lucien Favre. Ça a été démenti. Bien évidemment, pour bien connaître Lucien Favre, il a toujours dit qu'il ne reprendrait jamais l'équipe de Suisse et qu'il n'entraînerait même plus en Suisse. Donc, on peut douter de ça. Mais en même temps, c'est pas innocent que des rumeurs comme ça circulent maintenant, même si elles sont fausses, parce que ça peut par essaimage faire penser l'ASF un peu au-delà de son petit pré carré. Effectivement, Tammy a été chercher Yakin dans l'urgence en août 2021. Il y a eu beaucoup de chance pour se qualifier pour le Mondial 2022. Maintenant, on n'est plus dans cette configuration-là. Et la question de la position de Murat Yakin à la tête de l'équipe de Suisse mérite d'être posée. Et je ne sais pas si il est possible d'envisager, peut-être si on prend une décision radicale, un intérim de Pierluigi Tammy, qui connaît bien ses joueurs, qui en a entraîné pour la plupart de ses leaders quand il était à la tête des M21 de l'équipe de Suisse, Tammy. Ça peut donner peut-être un premier pas avant de chercher quelqu'un d'autre pour le futur. Moi, je me suis amusé en prenant un peu la tangente pour l'édito qui va paraître demain dans 24 heures et Tribune de Genève, à m'interroger sur qui il pourrait prendre. Et j'ai proposé un nom, Alain Geiger. Voilà quelqu'un qui a 112 sélections avec l'équipe de Suisse, dont la légitimité est incontestable des deux côtés de la Sarine, quelqu'un qui prône le beau jeu, quelqu'un qui aime bien Chaka, et c'est pas parce qu'il va le caresser dans le sens du poil qu'il faut le prendre, mais peut-être que ce serait quelqu'un qui pourrait apporter quelque chose d'intéressant, peut-être, pour cette équipe de Suisse, en tout cas, plus de jeu, parce que le jeu sous Murat Yakin, il a salement disparu quand même.
Johan, à ton avis, est-ce qu'un changement est déjà souhaitable?
Alors, si je parle en ma propre personne, je le souhaiterais. Ça, c'est un peu le supporter qui parle, mais il va pas intervenir. Déjà, ce serait un énorme désaveu pour la SF, même si Murat Yakin n'était qu'un choix par défaut à l'époque. Et actuellement, est-ce que vous verrez quand même une fédération nationale qui virait son entraîneur qui n'a pas connu de défaite dans les qualifications? Ce serait quand même... Ce serait peut-être une première. Mais après, il va falloir s'interroger pour l'après-Euro. Il y aura la qualification. Yakin, on ne va pas pouvoir le mettre de côté comme ça parce qu'il aura quand même qualifié. Et il y a le contrat qui veut qu'il soit automatiquement renouvelé en cas de qualification. Mais après, on peut très bien se dire, OK, bah, très bien, tu as fait ton travail, on va jusqu'à l'Euro avec toi. Mais après, on va changer de piste et puis on va partir sur un nouvel élan.
Moi, je crois que ce serait vraiment un mauvais calcul parce que l'euro, il doit servir à la progression. Avec Murat Yakin, il y a un seul mot qui me vient à l'esprit, c'est régression.
Totalement d'accord avec toi.
Et quand tu vois un match comme contre la Biélorussie, où tu laisses justement tous tes meilleurs jeunes sur la touche, où tu n'appelles pas Rieder, où tu ne prépares pas l'avenir justement, alors que c'est précisément le lieu où tu dois utiliser ce match pour préparer l'avenir, eh ben, ça augure de peu de bonnes choses prévisibles pour l'euro. Donc, est-ce qu'on veut aller à l'euro avec Yakin sous prétexte qu'il a un contrat, plutôt que de le couper quelques mois avant? OK, il fera peut-être ses 3 mois de... ces 3 matchs de novembre, la Suisse se qualifiera peut-être à la 2e place. Ce ne sera pas glorieux, mais au moins la Suisse sera à l'euro. Mais si on veut être à l'euro avec une vision pour le futur de l'équipe de Suisse, ce qui est nécessaire et ce qui doit occuper tous les cerveaux des pontes de l'ASF, eh ben, on doit se poser la question d'Yakin. Est-ce que ce serait vraiment judicieux pour l'équipe de Suisse que Yakin conduise encore cette équipe à l'euro?
Mais Valentin,
ils se sont dit en fait. À l'ASF et Murat Yakin, ils se sont dit on est dans un groupe facile. Ils clamaient on va faire 30 points sur les 30 points, oui, 10 matchs, 10x3, 30. Et ils se sont dit ok, très bien, on aura 6x3, 18, 21. Et les derniers matchs, on va pouvoir lancer les jeunes, faire tourner. Ben voilà, mais ils se sont fait avoir. Et en fait, je pense que tout le monde est responsable dans ce cas précis. Et maintenant, ils sont un peu pris au piège de leur façon de penser avant ces éliminatoires et ils doivent parer au plus pressé. Et là, ils ne savent pas quoi faire.
Valentin, on en revient toujours au même problème. L'année prochaine, il y a un rassemblement avant l'Euro. Qu'est-ce qu'un nouveau coach pourra mettre en place en une semaine de matchs amicaux et en 2 semaines avant l'Euro?
Évidemment que c'est plus complexe, mais enfin, disons que soit tu pars de zéro et puis t'espères arriver très haut, soit tu dis que tu es à zéro et puis que tu restes à zéro, voire tu régresses, comme a dit Daniel. Moi, je crois qu'aujourd'hui, il faut écouter, en tout cas, le rôle de l'ASF, ça doit être d'écouter la seule personne ou les seules personnes qui peuvent vraiment avoir un impact sur le destin de l'équipe de Suisse et sur les performances de l'équipe de Suisse en ce moment. Et je suis désolé, c'est pas Murat Yakin qui peut avoir cet impact-là, au contraire. Je pense qu'il n'y a qu'une seule personne, c'est Granit Xhaka. Il n'y a que lui qui est capable aujourd'hui de dire qu'est-ce qu'il faut pour cette équipe, pour en tout cas pour avoir les joueurs derrière lui, pour avoir des... une équipe, un collectif qui se monte sur le terrain, qui soit prête à se battre pour un entraîneur, pour un maillot, pour un pays. Alors pour le pays, j'ai aucun doute là-dessus, et pour le maillot, aucun problème avec ça. Pour l'entraîneur, ça j'en ai plus. Moi, ce que je préconise, c'est que c'est un Pierre-Louis Dutamy, il sollicite une réunion avec Granit Xhaka, avec Manuel Akanji, avec Yann Sommer, Chérin Chakiri, avec qui il veut, mais avec les joueurs importants de l'équipe. Et il se pose la question, qu'est-ce qu'il faut maintenant pour cette équipe-là? Je tiens à dire quand même que ce n'est pas le meilleur des exemples à donner, mais dans l'état dans lequel on est actuellement, déléguer un petit peu de pouvoir à ces joueurs-là, ça me paraît peut-être le plus sage pour éviter que ça parte à volo dans tous les sens le mois prochain avec ces 3 matchs qui vont venir. Donc voilà, si Xhaka et les autres disent que OK, on continue avec Murat, nanana, tout ce que tu veux, on continue. Par contre, s'ils disent non, on ne peut plus le voir, et bien là, on trouve une solution transitoire. Et on pense à quelque chose.
J'ai une question pour vous deux, Daniel et Valentin, qui êtes vraiment dans l'entourage de l'équipe de Suisse, qui suivez cette équipe de Suisse. Vous ne pensez pas qu'il y a du copinage?
Ah ben, évidemment, Yann. Enfin, je veux dire, regarde même ce qui s'est passé au mondial. Je veux dire, Mouat Yakine a sélectionné Fabian Frey. Alors, j'ai rien contre Fabian Frey, mais c'est pas sérieux. Enfin, et il l'a fait passer. Il était même pas de piqué, donc hein, il l'a sélectionné d'emblée pour le prendre au mondial. Et ensuite, Fabian Frey est passé devant Zakaria en tant que joueur de l'équipe de Suisse. Ben, enfin, on nage dans l'incongruité la plus énorme. Et bien évidemment que c'est du copinage. Mourad Yakin se sait en danger. Il n'est pas fou. Il sait très bien que le courant ne passe pas avec toutes les personnes avec qui il devrait passer. Donc, il essaye de récupérer à gauche, à droite, quelques éléments sans doute moins talentueux, mais peut-être plus fidèles. Et cette histoire-là de « je me protège avec certains joueurs », elle n'est pas audible actuellement pour l'équipe de Suisse, bien évidemment.
Troisième partie, Daniel, tu t'es déjà exprimé à ce sujet et je voudrais vous entendre aussi, Valentin et Johan, parce qu'on sait que si jamais il devait se passer des trucs qui n'arriveront pas, hein, mais quel genre de coach vous voudriez pour cette équipe de Suisse, et puis expliquer aussi simplement qu'arriver en octobre-novembre en pleine saison, c'est quand même compliqué d'aller trouver quelqu'un de compétent qui peut avoir un impact immédiat. Valentin, toi, tu verrais quoi comme profil ?
Ce qu'il faut, à mon avis, c'est déjà un profil qui fédère. Ça me semble un peu impossible de faire autrement. Qui fédère au niveau de l'équipe et puis aussi quand même au niveau du public. Ça me paraît quand même important. Quelqu'un qui a la légitimité, ça paraît aussi nécessaire. Alors, le nom d'Alain Geiger qu'évoquait Daniel tout à l'heure, il peut être séduisant à tous ses niveaux. On a parlé de Lucien Favre, évidemment, mais Lucien Favre n'y viendrait jamais. Je pense pas qu'un Vladimir Petkovic, il soit pertinent. Enfin, il voudrait se remettre dans ce truc-là après avoir laissé l'équipe en quart de finale en 2021. Voilà, c'est un petit peu des noms comme ça, les noms qui sont sans poste, c'est les entraîneurs suisses sans poste, c'est ceci. Est-ce que tu peux aller chercher aujourd'hui un entraîneur dans un club ? Ça dépend quel club c'est, mais tu vois, j'ai un peu de peine à imaginer que tu puisses aller débaucher Seoane à Gladbach ou bien même Urs Fischer à l'Union Berlin avant qu'il se fasse virer avant. Tu as toujours Marcel Koller qui est à la Lille en Égypte. Donc voilà, mais la liste, et c'était déjà le problème il y a 3 ans, la liste, elle n'est pas extensible à souhait non plus, quoi. Donc il faut faire preuve d'ingéniosité, il faut préparer un petit peu le terrain, il faut prendre des contacts si et là, et anticiper de façon au maximum, quoi. Enfin, que ce soit pour dans 2 semaines, pour dans 2 mois, ou bien pour dans 8 mois après l'Euro, il faut anticiper un maximum.
Johan, il y a un nom qui te parle là-dedans?
Tu parlais de fédérer, créer un groupe avec les joueurs, le public, c'est Peter Seiler. Tu vois, là, tu vas créer du football, tu vas avoir un football offensif. Bon, après, défensivement, ça risque d'être difficile. Mais Peter Seiler, dans ce rôle, je pense qu'il serait intéressant d'avoir Peter Seiler dans ce rôle. Il a l'allemand, le français, il sait s'attirer, regrouper les joueurs autour de lui. C'est pas un hasard s'il est à Saint-Gall depuis longtemps. Donc, allez, je dis ce nom comme ça. Et après, bon, on sait que l'ASF est toujours proche de. Ils regardent ce qui se fait en Allemagne. Hein, c'est pas pour rien qu'ils avaient un œil sur Joachim Löw ou sur peut-être Stefan Kuntz. Donc voilà, il y a plusieurs noms qui peuvent être là. Mais moi, je serais très curieux quand même de voir Peter Seiler.
Ouais, je suis pas sûr que lui soit prêt à prendre un poste dans lequel tu dois travailler que 3 semaines par année. Enfin, que 3 semaines par semestre.
Il doit être un peu déçu pour avoir été gardé repris par Augsbourg, non ?
Oh, c'était quand même une sacrée gonfle d'aller là-bas en perdant ce qu'il a construit à Saint-Gall pendant longtemps. Hein. C'est quand même le piège, là, à Augsbourg. Hein. C'est la peau de banane, quand même. Hein. Tu peux réussir, mais tu as beaucoup de chances de te planter aussi, quand même. Non, mais je crois au-delà des noms et des profils qui peuvent être intéressants, il faut surtout qu'on se pose la question à l'envers. Quel est le profil qui pourrait être intéressant pour cette équipe de Suisse avec les joueurs qui la constituent ? Pas un profil qui va contre certaines idées et qui épousera sûrement que les idées d'Yakin, les penchants naturels de cette équipe et ce qu'elle avait su se tracer comme destinée il n'y a pas si longtemps encore. Tout ça existe encore dans cette équipe. D'ailleurs, on l'a vu à plusieurs reprises quand elle était en malaise sur le terrain. ou même parfois à la mi-temps d'un match, comme en Ligue des Champions, en Ligue des Nations contre l'Espagne. C'est l'équipe elle-même qui a changé sa manière de jouer. D'autorité, Yakin n'a pas eu son mot à dire. Quant à Serbie, quand Xhaka se replace en 6 avec Freuler à côté de lui, c'est lui qui réorganise vraisemblablement l'équipe pour que les choses aillent mieux et la Suisse passe l'épaule ensuite grâce à ça. Donc, il faut quelqu'un qui aille naturellement vers ces penchants-là de l'équipe de Suisse.
Mais en fait, ce que vous me dites, c'est en plus, si je fais une synthèse, ça revient vers Vladimir Petkovic, non ?
Ou quelqu'un qui pense aussi que l'équipe de Suisse doit jouer et pas seulement être en réaction par rapport à ce que proposent les équipes adverses, ce qui est quand même le grand dada de Murat Yakin, c'est-à-dire se préparer en fonction de chaque adversaire, quel qu'il soit. Le paradigme avant de l'équipe de Suisse, c'était quel que soit l'adversaire, on va imposer notre jeu. On est passé donc du blanc au noir.
Bon, dernier thème de ce podcast qui aura quand même forcément tourné autour d'un seul sujet, Valentin. Toi, tu as un peu défloré le sujet en parlant de la relève et de l'âge de cette équipe. Question simplement, est-ce qu'on a mangé notre pain blanc ? Parce que là, on voit les jeunes qui ne sont pas assez bons pour déloger Vargas ou Stephen. On regarde la nouvelle génération de N21, il n'y a pas d'individualité extraordinaire. On regarde peut-être un peu plus jeune, il y a peut-être 2-3 joueurs qui pourront prendre la relève, mais d'ici 7-8 ans, est-ce que cette équipe de Suisse a un avenir aussi brillant qu'on a eu un passé récent ?
Croire qu'on va subitement, tout de suite, avoir de nouveau une génération spontanée aussi forte que celle qu'on a pu avoir avec entre 91 et 92, donc cette génération des Shakiri, Mehmedi, Xhaka, Rodriguez, Seferovic, etc. Évidemment que ça paraît un petit peu illusoire à court terme, en tout cas, je suis bien d'accord. Mais disons que dans toutes les sélections, le travail, c'est sur chaque volet, on doit pouvoir amener 1, 2, 3 joueurs qui viennent petit à petit nourrir les rangs de l'équipe de Suisse. Et le problème, c'est que là, quand tu fais un match contre la Biélorussie et que ton plus vieux sur le terrain, il a 25 ans et c'est l'Otomba, alors certes, t'as Amdouni, t'as Endoy, t'as Okafor aussi sur le banc, enfin, t'es des 2000, mais c'est quand même assez inquiétant et assez préoccupant. Hier, la moyenne d'âge de l'équipe, en effet, elle était à plus de 30 ans, donc c'est quand même pas très rassurant et pas très encourageant. Mais je crois que Murat Yakin, après la Coupe du Monde, aurait pu prendre ce risque-là de lancer de temps en temps un mec un peu plus jeune, un Jachari sur un match, un Rido sur un autre, Endoy titulaire hier. Il l'a fait qu'avec Amdouni, mais en même temps ça s'imposait, d'autant plus qu'il avait Mbolo qui était blessé. Là, pour moi, il est en train de faillir à l'autre mission en tant que sélectionneur qu'il pouvait avoir, c'est préparer un petit peu le terrain et préparer le changement de génération. Donc peut-être qu'il y aura des joueurs qui vont pouvoir s'imposer petit à petit, ça c'est clair, mais la génération spontanée qui va s'imposer d'elle-même, ça me paraît quand même un peu plus complexe.
Johan, ce manque de relève, hein, on n'aura plus forcément des joueurs dominants à l'étranger comme Akanji, comme Xhaka dans les 4-5 années à venir. Ça t'inquiète, ça ?
Alors, j'attends de voir quand même, parce que je trouve que la génération qui a fait l'Euro 21 au mois de juin était très intéressante sur le papier. La plupart des joueurs sont quand même partis à l'étranger désormais. Et dans les d'ici 4-5 ans, mais on doit avoir un Yachari, un Reader qui sont titulaires. Les Endoy, Amdouni, ce seront les piliers de l'attaque. Derrière, on attend de voir, ça c'est encore le problème derrière. Et on a un Gregor Kobel, dont on n'a pas parlé ici, et je pense que c'est aussi une thématique à évoquer. Est-ce que Yann Sommer est toujours le numéro 1 légitime de cette équipe de Suisse ? On a le potentiel de jeunes qui doit arriver maintenant et qui doit être épaulé par les cadres qui sont actuellement en place. Et ce mix entre les deux générations peut faire des étincelles et pas attendre 4-5 ans encore. Franchement, je ne suis pas forcément inquiet. Maintenant, il faut savoir qui c'est qui est capable de mettre tout ça ensemble.
Daniel, est-ce que tu es inquiet toi, de la relève ou est-ce qu'on ne lui donne pas sa chance ?
C'est plutôt la deuxième version qui m'inquiète. On ne donne pas vraiment sa chance aux jeunes. En tout cas, on ne prépare pas le terrain pour qu'ils puissent avoir leur chance. Il faut se souvenir aussi, par exemple, que Vladimir Petkovic y est allé en tranchant dans le lard en tranchant dans le vif aussi, quand il a écarté des joueurs comme Berami, comme Kelson Fernandez, ensuite ce sera Lichtsteiner. ben voilà, il était conscient qu'il fallait parfois prendre des mesures impopulaires, douloureuses pour ceux qui se sentaient mis à l'écart. On a bien vu ce que ça a donné avec Bérami. Mais enfin, c'était pour le bien de l'équipe, il faut croire, puisque cette équipe-là, ensuite, est arrivée en quart de finale d'un euro. Donc voilà, ce courage-là, manifestement, Murat Yakin en est dénué et c'est bien inquiétant pour l'équipe de Suisse parce que, encore une fois, quand on a à disposition pour jouer contre la Biélorussie des gens comme Amdouni, comme Endoy, comme Rieder qu'on oublie en M21, comme Jachari qui aurait pu être papable aussi, on pourrait se dire que Murat Yakin avait pour devoir d'au moins les prendre et de leur donner déjà un petit peu. Un peu de responsabilité. C'est comme ça qu'on prépare l'avenir, en tout cas. Manifestement, ce n'est pas une priorité pour Murat Yakin, malheureusement.
Ipspel l'avait fait aussi à l'époque. Hein. Ça avait été presque aussi violent avec une autre génération. Hein,
Faut se rappeler pourquoi il l'avait fait. Hein. C'était la Suisse qui était déjà pratiquement éliminée de la course à l'Euro 2012. Et c'est à ce moment-là qu'il avait introduit précisément Granit Xhaka. C'était son premier match au printemps, sauf erreur 2011. Et puis d'autres jeunes hein, qui étaient arrivés aussi en même temps, Rodriguez et d'autres. Donc effectivement, il l'avait fait un peu à son corps défendant, oubliant pour la première fois de sa vie son 4-4-2 basique pour arriver sur un autre système de jeu, mais contraint et obligé. Les choses étaient un peu plus construites quand même ensuite avec Vladimir Petkovic.
Valentin, on l'a vu, hein, la qualification ne va pas de soi pour tout le monde, même si c'est un euro à 24 équipes. La Croatie, la Norvège, c'est compliqué, alors que c'est quand même deux pays de football. Mais rassure-moi, la Suisse va se qualifier. Et puis au pire, il y a encore la Ligue des Nations, les barrages de la Ligue des Nations derrière. Mais non, la Suisse va se qualifier. Après, reste à savoir pourquoi faire un tour en Allemagne. Mais oui, on va se qualifier, non ?
Je pense que t'as quand même beaucoup de supériorité par rapport aux autres. Et moi, j'ai la conviction qu'à un moment ou un autre, t'as quand même deux, trois joueurs qui vont se responsabiliser un petit peu et puis se rendre compte que si ils le font pas pour les autres, pour l'entraîneur, etc., ils le font surtout pour eux et pour leur dernière chance d'aller jouer une grande compétition aussi pour une grande partie d'entre eux. Donc, moi, je me fais pas trop de soucis, mais faudra faire attention à pas trop patiner non plus. Je pense qu'en gagnant un des deux matchs contre Israël ou contre la Roumanie, tu t'en sors.
Ouais, mais imagine le scénario catastrophe. Il y a le 15 novembre, donc dans 24 jours, il y a Israël-Suisse, on ne sait pas encore où. Ce sera peut-être le premier match s'il se joue, hein, et forcément c'est peu de choses par rapport à toutes les horreurs qui se passent de l'autre côté, au bout en Israël et en Palestine, hein, bien évidemment. Mais si ce match se joue, Israël va arriver pour jouer ce match-là. Si Israël gagne, Israël sera à un point de la Suisse avec un match en moins. Ça devient tout de suite un peu dangereux pour la Suisse, parce que virtuellement, Israël pourrait passer devant la Suisse, et la Suisse aurait après deux matchs à jouer contre le Kosovo, qu'elle n'a jamais battu, ni en amical, ni en officiel, et en Roumanie, qui sera en tête du groupe, possiblement. Donc,
franchement, déjà qualifié, peut-être, hein, ça va peut-être tout sauver les miches.
Ah ouais, mais enfin voilà, c'est quand même... le scénario catastrophe, il existe. J'y crois pas vraiment, hein, je dois l'avouer aussi. Mais quand même, il existe et ça, c'est quand même inquiétant.
Par contre, le Kosovo-Israël, on joue en mars l'année prochaine et puis on met une boule avec des numéros comme pour les barrages avec des nations, ça va être complexe aussi. Hein.
Ouais. Je pense qu'ils s'attendent à ce que la Suisse et la Roumanie fassent le job et puis que l'Israël soit sûr d'être troisième pour pouvoir ensuite dire « Ok, ben, on lance les barrages comme ça ».
Bon, Johan, quand t'es pas inquiet, on va se qualifier.
Je suis pas inquiet parce qu'il y a encore une autre composante que Daniel a oublié, c'est qu'Israël et la Roumanie doivent jouer contre. Donc il faudrait vraiment un concours de circonstances hallucinant pour que la Suisse ne passe pas. Donc, mais je suis inquiet de la façon dont joue la Suisse, mais je suis pas inquiet pour la qualification. Ça va quand même le faire. Le Kosovo à domicile, il y a certains qui vont prendre ce match assez personnellement à cœur. Et prendre la revanche.
Comme à Pristina ?
Ouais, mais là, tu vois ce que je veux dire ? Ils veulent encore.
Mais après, tu arrives à l'Euro, Valentin, tu seras pot 2, donc tu seras favori pour la qualification. Et puis, on va se faire éliminer en huitième de finale, et puis on va prendre 6-0.
Oui, peut-être. Et puis, on tirera peut-être des leçons encore un peu différentes que celles qu'on a tirées à la fin de,
à la fin de la Coupe du Monde, quoi. Donc, s'il faut passer par là, il faudra passer par là. Mais je pense qu'on est encore à un stade où on peut éviter ça et puis on peut considérer d'autres chemins pour arriver dans de meilleures dispositions, au moins.
Daniel, toi, ça fait un moment que tu suis quand même cette équipe de Suisse. Et moi, j'ai quand même l'impression qu'il y a une fébrilité et il y a des discussions qu'on n'avait pas les campagnes précédentes.
Non, peut-être qu'on aurait dû les avoir d'ailleurs. Moi, je me rappelle de l'ère Hitzfeld, donc Gottmar pour toute la Suisse allemande, hein, je le rappelle. Il rate sa première mission quand la Suisse se qualifie pour le Mondial 2010. Au Mondial 2010, après avoir battu l'Espagne, l'équipe de Suisse n'arrive pas à se qualifier pour les huitièmes de finale. C'était son objectif. Donc déjà là, c'était quand même un petit sentiment d'échec. Ensuite, il y a l'immense échec, la Suisse qui termine derrière le Monténégro dans les qualifications pour l'Euro 2012. Et l'ASF qui s'empresse de prolonger son dieu vivant, Gottmar, sur la base de résultats qui n'existent pas. Et avec le blanc-seing de toute la presse suisse-allemande qui estimait que malgré tout ça, Ottmar Hitzfeld devait rester un dieu vivant. Et il n'a vécu finalement en laissant que le souvenir de ce match assez fou contre l'Argentine, mais beaucoup de spéculation quand même dans ce match-là. Et la Suisse est éliminée en huitième de finale. C'est la seule fois où il atteint l'objectif, en fait. Peut-être qu'on aura déjà dû se poser des questions. Après, avec Petkovic, on s'en pose moins de questions. Effectivement, il y avait ce plafond de verre des huitièmes de finale, mais il l'a crevé en 2021. Et oui, elle se pose pas facilement les questions, l'équipe, l'ASF, par rapport les remises en question, c'est pas son point fort. Mais d'ailleurs, ça va très bien dans le sens de Murat Yakin, parce que lui non plus ne se remet pas beaucoup en question.
Bon, je pense que ça parle un très beau mot de la fin. On est pile dans le timing. Merci, messieurs. Puis l'équipe de Suisse, c'est reparti dans 3 semaines. À bientôt.
Ciao, ciao. Merci.
Salut, merci.